Il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 1800 suppressions de postes dans l'éducation nationale, dans les collèges et lycées, dans l'administration et en même temps davantage de moyens donnés aux primaires. C'est la philosophie de Jean-Michel Blanquer expliquée ce matin dans les pages du Figaro et elle n'est pas sans rappeler celle de Nicolas Sarkozy, analyse dans un instant.
Et puis elle a eu également une nouvelle rencontre aujourd'hui entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'est à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Une discussion centrée sur la Syrie et sur la province d'Idlib que Damas et Moscou veulent reprendre.
L'ONU craint là une catastrophe humanitaire, la Turquie craint elle une crise migratoire, la crise des migrants évoquée aujourd'hui à Paris entre le jeune chancelier conservateur Sébastien Kurz qui dirige l'Autriche aux côtés de l'extrême droite et Emmanuel Macron.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, Catherine, Chine vers une nouvelle bataille navale. On posera la question à Alice Ekman, qui est chercheuse et responsable de la Chine à l'IFRI.
En blouse blanche, en tenue chirurgicale bleue ou verte, le drapeau de la révolution syrienne à la main, ils ont voulu répondre aux bombes hier. Plus de 300 médecins et infirmiers ont manifesté dans la province d'Idlib, dernier grand bastion contrôlé par les rebelles et les djihadistes au nord-ouest de la Syrie. Idlib bombardé ces dernières semaines par le régime de Bachar al-Assad, appuyé par l'aviation russe. L'arrêt des frappes contre les hôpitaux et une protection par les Nations Unies, c'est ce que réclamaient hier médecins et infirmiers donc dans les manifestations à Idlib. Une catastrophe humanitaire et une nouvelle crise migratoire, c'est ce que craint la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan est reçu aujourd'hui par Vladimir Poutine à Sotchi. Sur les bords de la mer Noire, le président russe va tenter de convaincre son homologue turc des dangers que constitue la mouvance djihadiste à ses frontières. Claude Bruyot.
C'est un peu une session de rattrapage que Vladimir Poutine propose à Recep Erdogan aujourd'hui sur les bords de la mer Noire. Les images et surtout les attitudes des deux chefs d'État s'opposant devant la presse internationale il y a 10 jours à Téhéran sur la pertinence d'un cessez-le-feu à Idlib sont encore dans toutes les mémoires. Depuis la baisse d'intensité des bombardements du régime d'Al-Assad et de l'aviation de Vladimir Poutine sur la région n'a fait que renforcer les positions turques. Erdogan a fait savoir en fin de semaine que la Turquie demeurait bien sûr toujours aux côtés de ceux qui combattent le terrorisme. Mais dans le même développement, le numéro 1 turc s'oppose toujours à l'idée d'un combat sans discernement entre les civils et les factions modérées opposées à Damas d'un côté et de l'autre les djihadistes qu'il faut éliminer. De son côté, Vladimir Poutine risque lui maintenant d'accentuer la pression sur son interlocuteur, qui craint surtout un afflux de réfugiés à ses frontières. Le président russe a de nouveau fait valoir également en fin de semaine dernière son inquiétude quant à la menace terroriste, encore très vivace selon lui à Idlib, mais sans que l'on sache jusqu'où va dans son esprit l'objectif de la reconquête du secteur avant toute autre considération fût-elle humanitaire. En cas de nouveau blocage avec Erdogan aujourd'hui, jusqu'où Vladimir Poutine pourrait-il se passer, même momentanément, du soutien turc sans risquer de le perdre plus longuement ?
Des tractations diplomatiques entre les grands parrains des belligérants auxquels sont suspendus les civils syriens pour les opposants à présent syriens qui ont pu fuir la guerre et qui réclament depuis 7 ans l'aide des puissances occidentales. C'est l'heure des désillusions, Claude Guibal.
Il y a 7 ans, les premières manifestations contre Bachar al-Assad. Ce jour-là, lorsque Yahya Hakoum, étudiant, part manifester à Damas, il n'imagine pas le désastre d'aujourd'hui.
Moi, je n'ai pas hésité un moment pour descendre dans la rue. Il y avait vraiment l'espoir.
Arrêté, torturé pendant 47 jours, Yahya perd plus de 30 kilos. Son frère a depuis été tué. Sa famille a éclaté. Yahya est réfugié en Belgique.
Les Syriens ont été abandonnés par tout le monde, même ceux qui se disent l'ami du peuple syrien.
À l'heure où la Russie menace de déclencher l'offensive sur Idlib, il y a de la colère, de la désillusion chez ceux qui regrettent l'inaction de la communauté internationale. Basma Khodmani a cofondé le Conseil national syrien, une structure qui, au premier jour du conflit, avait tenté de coordonner les diverses factions de l'opposition syrienne pour en faire un interlocuteur pour les négociations.
On est démoralisé. Voilà 7 ans que toutes les portes se sont fermées. Aucune piste n'a abouti. Aucune.
En 2012, la menace d'un veto russe a empêché la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne qui aurait permis à la population de se rassembler plutôt que de fuir vers la Turquie et déclencher de grandes vagues migratoires. En 2013, ça a été la reculade de Barack Obama malgré l'utilisation des armes chimiques. La guerre en Syrie a fait plus de 350 000 morts et à Idlib, 3 millions de personnes attendent sous la menace des bombes.
Idlib, dernière grande province à reconquérir pour le régime de Damas, à la faveur de ses précédents succès militaires, Bachar el-Assad a organisé hier ses premières élections municipales depuis 2011. La majorité des candidats affiliés à son parti bassiste, aucun résultat fourni à 7h.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. 1800 postes seront supprimés l'an prochain dans l'éducation nationale.
Dans les collèges et lycées, dans l'administration également, c'est ce qu'explique Jean-Michel Blanquer ce matin dans les pages du Figaro. Priorité donnée aux primaires, au dédoublement des classes de CP et de CE1, rationalisation des moyens, ce n'est pas un gros mot, explique le ministre de l'Éducation nationale, et de rappeler que son budget global sera augmenté de 850 millions d'euros l'an prochain. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Catherine Dutu.
Pour compenser ces 1800 suppressions de postes, Jean-Michel Blanquer précise que les chefs d'établissement pourront imposer une deuxième heure supplémentaire aux enseignants, des heures sup qui seront d'ailleurs exemptées de cotisations salariales. Est-ce un retour donc, Hakim, de la philosophie de Nicolas Sarkozy du travailler plus pour gagner plus?
C'est en tout cas un véritable coup de tonnerre pour le monde de l'éducation, qui rappelle de mauvais souvenirs, car sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait déjà eu 80 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer était déjà à la manœuvre, il faut le rappeler, en tant que numéro 2 du ministère, avec Luc Chatel comme ministre de l'Éducation. Concrètement, ce sont donc 1800 postes qui seront supprimés dès 2019. Des suppressions qui concerneront en grande majorité les postes administratifs et d'enseignants, principalement dans le secondaire. Les syndicats n'ont pas tardé à réagir dès hier soir en dénonçant une casse sociale. D'autant qu'avec la hausse démographique, il y aura 26 000 élèves de plus cette année au collège, et même 110 000 élèves de plus d'ici 2021, rappelle le SNES, principal syndicat du secondaire. Pour compenser, Jean-Michel Blanquer, vous l'avez rappelé, veut exonérer de charges les heures supplémentaires des enseignants. Là aussi, on retrouve le gagner plus de Nicolas Sarkozy. D'autant il compte aussi sur la réforme du collège et du lycée, avec notamment la fin des filières S, EL et L, en mutualisant le plus de cours possible, ce qui n'empêchera pas d'avoir des classes de 35 élèves.
Hakim Kasmi, merci pour ces explications. Le virage social de l'exécutif aura duré 3 jours. Yann Brossa, chef de file du Parti communiste aux élections européennes, a dénoncé avec cette expression hier les propos d'Emmanuel Macron face à un jeune horticulteur au chômage. C'était samedi dans les jardins de l'Élysée à l'occasion des journées du patrimoine. Le chef de l'État a suggéré à ce jeune homme donc au chômage de changer de secteur pour trouver un emploi. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, a déclaré Emmanuel Macron, remercié par son interlocuteur. Emmanuel Macron critiqué en revanche par l'opposition. La députée Les Républicains Valérie Boyer a dénoncé le mépris permanent du chef de l'État. Pour lui, les chômeurs sont coupables de leur chômage. Où vit cet homme qui a jamais insulté plus odieusement les Français en difficulté, a écrit Jean-Luc Mélenchon chez Les Insoumis. La République en marche à présent qui suscite des crispations dans l'affaire Benalla. Après le coup de fil d'Emmanuel Macron à Gérard Larcher, après les mises en garde de Christophe Castaner, voici le boycott des 3 sénateurs de la majorité qui siègent à la commission d'enquête du Sénat qui doit tenter de déterminer le rôle exact que jouait Alexandre Benalla à l'Élysée. Ces 3 sénateurs LREM n'assisteront pas à l'audition d'Alexandre Benalla mercredi. François Patriat, le chef de file des sénateurs En Marche, dit n'avoir reçu aucune consigne, mais il ne veut plus, dit-il, cautionner le travail de cette commission parlementaire.
Nous pensons aujourd'hui que la commission outrepasse le périmètre de son action et que nous savons très bien que si la commission du Sénat réentend pour poser les 3 mêmes questions auxquelles les réponses ont été apportées, c'est parce qu'elle n'a pas pour but, cette commission, en fin de compte, de connaître l'affaire Benalla. Elle est censée rechercher les dysfonctionnements qu'il y a eu dans la chaîne de décision. Mais en fin de compte, on voit bien l'arrière-pensée qui est celle de commission. C'est celle de mettre à mal le gouvernement, d'affaiblir le pouvoir exécutif. C'est la seule raison qui la pousse aujourd'hui à faire auditionner M. Benalla. Donc nous ne souhaitons pas participer à ce que nous considérons comme une, non pas comme une mascarade, mais comme une émission de buzz pour faire de la saison 2 de l'affaire Benalla une affaire croustillante. Mais nous pensons surtout que le Sénat a mieux à faire aujourd'hui que de passer son temps, ses journées, ses auditions à parler de l'affaire Benalla.
François Patriat, le chef de file des sénateurs En Marche, joint par Élodie Fauré. De son côté, Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat, estime que ce boycott LREM est contre-productif car il focalise une fois de plus l'attention médiatique sur l'affaire Benalla. Sans compter, ajoute Bruno Retailleau, qu'attaquer la commission d'enquête du Sénat n'est pas sain pour nos institutions. Pour sa rentrée politique hier à Fréjus, marquée par des difficultés financières, 2 millions d'euros de subventions publiques gelées dans le cadre de l'affaire des assistants présumés fictifs, massif au Parlement européen. Marine Le Pen a dénoncé une fois de plus la folle politique immigrationniste de l'Union européenne. La présidente du Rassemblement national, qui a creusé un peu plus le sillon de ses alliés nationalistes qui ont le vent en poupe en Europe, Matteo Salvini en Italie ou bien le FPE en Autriche, parti d'extrême droite qui gouverne aux côtés des conservateurs. Le ministre autrichien de l'Intérieur, issu justement des rangs du FPE, vient de proposer de procéder à un tri des migrants en mer entre candidats sérieux à l'exil et migrants économiques, une manière de faire pression sur l'Union européenne, alors que Sébastien Kurz, le jeune chancelier conservateur autrichien, est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à Paris. Alors que l'Autriche assure la présidence tournante de l'UE, quel rôle peut jouer Sébastien Kurz avant le sommet européen prochain de Salzbourg? L'analyse à Vienne d'Isorias.
Sébastien Kurz veut se poser en médiateur pour favoriser un consensus sur la question migratoire lors du prochain sommet de Salzbourg. Mais dans une Europe divisée sur le sujet, il sera difficile de bâtir des ponts entre Est et Ouest, selon la formule du chancelier. D'autant que Sébastien Kurz s'est allié à l'extrême droite et son gouvernement fait des propositions controversées. Dernière en date, vendredi, son ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, a proposé d'organiser un tri entre réfugiés et migrants ne pouvant prétendre à l'asile directement sur les embarcations en mer. Seuls les premiers seraient conduits sur le territoire européen, les autres seraient renvoyés dans des ports sûrs de pays tiers. La proposition, soutenue par son homologue italien Matteo Salvini, ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. La tâche s'annonce donc compliquée pour Sébastien Kurz, lui qui a fait de l'immigration la priorité de la présidence autrichienne et espère favoriser une solution européenne durable d'ici la fin de cette présidence en décembre prochain.
Isorias à Vienne pour France Culture. Après avoir fait plus de 50 morts aux Philippines, après s'être abattu sur la province de Canton dans le sud-est de la Chine, le typhon Mangkhut se dirige désormais vers l'ouest, provoquant la suspension des services de transport et l'évacuation de millions d'habitants. Aux États-Unis, la tempête Florence a continué hier à déverser des trombes d'eau sur la Caroline du Nord, privant plus de 640 000 foyers d'électricité. Florence, ouragan devenu dépression tropicale, a fait au moins 16 morts depuis jeudi dernier. Le temps en France de ce lundi 17 septembre, toujours estival, après dissipation de la grisaille matinale. Des orages seront possibles en fin de journée sur les reliefs. Au meilleur de la journée, il fera entre 23 et 27 degrés près de la Manche et près du golfe du Lion. Dans le reste de l'Hexagone, comptez de 27 à 34 degrés, Guillaume.